Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Fleur d'Avocat. Aujourd'hui, c'est une interview un petit peu spéciale que je vous propose puisqu'il s'agit de la rediffusion d'une interview live de Clarisse Bérébi que j'ai réalisée lors de la soirée des 5 ans de Fleur d'Avocat et globalement la soirée 2023 de Fleur d'Avocat. J'ai proposé à Clarisse Bérébi, qui est en réalité une invitée de très longue date puisque c'était la 7e invitée du podcast. Donc on parle d'une interview en début 2019, de revenir sur le podcast pour parler de ce qui s'est passé pour elle ces 5 dernières années puisqu'elle a développé un cabinet qu'elle a quitté et puis ensuite elle en a créé un autre. Et voilà, comme les parcours professionnels et globalement les dynamiques, les trajectoires professionnelles sont au cœur de la réflexion de Fleur d'Avocat, eh bien, je trouvais intéressant de lui proposer de revenir pour témoigner de son parcours, on va dire, post-premier épisode de podcast. Et puis, je vous cache pas qu'une autre raison qui a motivé ma proposition d'invitation est que moi, personnellement, sur ces 5 dernières années, mon projet professionnel aussi a changé. Et parmi les choses que j'ai découvert et pour lesquelles j'ai découvert un intérêt que je ne soupçonnais pas en démarrant mon aventure entrepreneuriale, il y a le sujet de la marque, de comment est-ce qu'on développe une marque, comment est-ce qu'on crée une marque. Et s'il y a bien une avocate qui peut parler de ce travail de branding, de ce travail de développement d'une marque, eh bien, c'est Clarisse Bérébi. Et donc, je voulais aussi la questionner sur ce sujet. Voilà, donc c'est une retranscription de cette interview qui a eu lieu, c'était le 9 novembre 2023. J'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Comment vas-tu, Clarisse ?
Ça va bien. Toujours bien quand tu m'invites, Lila.
Alors, ce que je te propose, c'est qu'on commence par un petit peu parler de ce qui s'est passé depuis il y a 5 ans.
Ok.
Donc, quand je t'ai reçu il y a 5 ans, Bold était en démarrage de grosse ascension, tu vois. Et donc...
On est en quelle année, il y a 5 ans ?
C'était 2018, début 2019.
Ok, merci.
Ouais.
Ok.
Et aujourd'hui, tu as changé de cabinet, tu es dans un cabinet qui s'appelle Ether, que tu as fondé, Ether Avocat. Donc voilà, brièvement, parce que l'idée, c'est pas de faire 1h30 de podcast, je vous rassure. Mais voilà, brièvement, comment est-ce que tu définirais, on va dire, ces 5 dernières années pour toi, en tant que carrière d'avocat, de développement, de réflexion pour toi, de comment tu vois ton exercice?
Effectivement, quand tu m'as rencontré, donc ça faisait un an que Bold était créé. C'est une entreprise qui a une croissance fulgurante puisqu'on est passé quasiment de 0 à 100 personnes en 4 ans. Quasiment, ou 4 ans, oui, c'est ça. Quand je suis partie, ça faisait 4 ans et demi, donc presque 5 ans, on va dire. Et je dirais qu'à titre personnel, je me suis transformée d'avocat en entrepreneur par cette expérience. C'est cette expérience qui a fait de moi un entrepreneur. Ça a été... j'ai eu le sentiment, quand on a créé Bold, déjà Bold... Pour que tous les gens ici sachent de quoi je parle, donc c'est une entreprise qui était très positionnée sur l'écosystème start-up, qui finalement a innové en termes de business model en créant un abonnement illimité qui incluait toute notre ingénierie, de la structure au contractuel en passant par les actifs de l'entreprise. Et donc, en faisant ça, il a fallu revoir toute notre organisation. Donc pour moi, ça a été tout un nouveau monde qui s'est ouvert à moi en termes de gestion, de management, d'organisation, de gestion de trésorerie, de rentabilité. J'ai découvert un environnement que je ne connaissais pas avant Bold, puisque j'étais avocat fiscaliste, moi, depuis déjà 20 ans, et que c'était pas mon métier d'origine. Et en tant que cofondatrice et dirigeante de Bold pendant 4 ans et demi, de fait, ça a transformé. J'ai changé de casquette tout au long de cette expérience, tout au long de laquelle j'ai eu toujours le sentiment un peu d'être légèrement en retard en permanence sur l'évolution du projet. Il me dépassait toujours un petit peu. Donc j'étais toujours obligée de retrouver des compétences, des capacités de grandir avec l'entreprise.
Donc voilà, un projet qui a vraiment fait de moi un entrepreneur. Et donc quand en 2022 on a décidé de se séparer et que mes associés ont racheté mes participations, ce qui déjà en soi n'est pas très fréquent dans notre profession, mais c'était nécessaire puisque en ayant créé une marque extrêmement forte qui par elle-même permettait de créer des nouveaux clients, de nouveaux prospects et qui ne permettait pas de repartir uniquement avec ma spécialité de fiscaliste puisque tout était intégré dans un abonnement illimité, c'était cohérent que je procède de la sorte. Et d'ailleurs, tous mes clients d'origine, pour autant qu'il y en avait d'origine, sont restés chez Bold. Et donc, je suis repartie quelque part de zéro en créant cette nouvelle marque Ether, mais avec une nouvelle casquette d'entrepreneur et une volonté de faire émerger une nouvelle marque dans un nouveau contexte.
Et juste pour revenir un petit peu sur Bold, donc quand je t'ai interviewé, c'était donc un an après la création. Vous étiez déjà partie de ce postulat de faire cet essai, ce pari de l'illimité. Et tu vois, moi, quand je conseille les avocats sur ces aspects-là, je leur dis toujours, tout ce qui est tarification, c'est du test and learn. Vous allez tester des choses et puis ensuite, vous allez réajuster. Il y a des choses que vous allez sortir de votre offre, que vous allez réintégrer. Quel a été ton retour d'expérience avec Bold sur toute cette réflexion un peu de modèle et comme tu disais de modèle d'ajustement entre les recrutements, la rentabilité, les process. Enfin, tu vois, comment est-ce que tout ça allait s'articuler derrière?
Vaste question. C'est 4 ans de travail là que tu me demandes de décortiquer et en plus j'ai encore évolué aujourd'hui avec Ether. Donc je dirais que à partir du moment où tu décide de transformer un environnement, de toute façon, c'est du test and learn. Évidemment, tu prends un risque. Mais c'est le propre d'un entrepreneur de prendre un risque. Et c'est en ça que l'avocat n'est pas un entrepreneur, c'est qu'il ne prend aucun risque, puisqu'il vend des heures qu'il facture à un client. C'est le client qui prend le risque, puisque si on vous passait 10 heures, le client paye 10 heures. Si vous en passez que 2, le client paye 2 heures. Nous, on a décidé de reprendre par-devers nous le risque entrepreneurial. On a mis du temps à trouver l'équilibre entre le modèle et la méthodologie de facturation et l'organisation interne pour quand même gagner en rentabilité et gagner des points de rentabilité. Parce que très clairement, on est passé du jour au lendemain d'un modèle, si tu veux, un cabinet d'avocat classique, c'est un tiers collaborateur, un tiers frais divers, un tiers associé, on va dire. Là, on est passé du jour au lendemain à 50% collaborateurs. J'exagère un peu, pas du jour au lendemain, mais ça s'est fait très vite. Donc, il a fallu revoir toute notre organisation. Donc, on a été obligé de créer des... Non, évidemment, tu comprends aussi que les points de marge, les 20 points de marge qu'on perd, c'est les associés qui les perdent. On est clair là-dessus aussi. On va pas se mentir. Donc, c'est un vrai risque. Mais après, un travail qui a été fait en interne pour organiser les choses de façon à ce que le client et l'avocat et les collaborateurs ne ressentent pas cette innovation de modèle économique comme quelque chose qui diminue la qualité du travail produit. Donc tout l'enjeu a été là. Comment on organise les choses pour pas vendre des produits standardisés, pour vraiment donner un conseil juridique de qualité, tout en étant capable de conserver une rentabilité. C'est pas impossible, mais ça a demandé beaucoup d'efforts. Et puis, il faut pas oublier qu'à partir du moment où le client est en abonnement illimité, il peut faire des demandes à tout moment. Donc on peut pas se contenter de les recevoir dans des mails divers et variés. Donc il a fallu aussi s'organiser en termes d'outils et s'organiser en termes d'équipe. Donc ça a été tout un remaniement du management qu'on a fait. Donc à l'époque où tu m'as interviewé, c'était pas encore fait. Ça a été fait, le gros du remaniement du management a été fait mi-2019. Où là on a complètement revu notre organisation en créant des équipes dédiées sur des sujets. Et avec un postulat qui était très fort, qui était de dire, chez Bold, il y a une harmonie et un service qui est unique, quelle que soit la demande qui est faite. La grosse difficulté dans un cabinet d'avocat classique, c'est que vous allez voir l'avocat en droit des sociétés. Il a sa façon de travailler, son propre management, ses propres méthodologies. Et puis demain, vous allez voir celui qui fait de la propriété intellectuelle. C'est tout à fait une autre façon de travailler. Chez Bold, tout était totalement harmonisé dans tous les services. Et c'était l'objectif qu'on s'était fixé. Et chaque service devait traiter les demandes des clients. Mais les avocats ne pouvaient pas choisir leurs clients et les clients ne pouvaient pas choisir leur avocat. Et ça aussi, ça a été une grande innovation qu'on a imposée aux deux parties, à la fois aux collaborateurs et à la fois aux clients. Mais parce que on s'adossait sur le fait que le service était harmonisé. Donc, ça a été un énorme travail interne de structuration, d'organisation, d'outils, un immense wiki qui a été fabriqué par les collaborateurs. Il y a eu une énergie interne pour fabriquer le modèle Bold, parce que je l'ai pas fabriqué moi, hein, ça a été fabriqué par toute une équipe et franchement, qui a été incroyable.
Bold a quand même, enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'était vraiment le cabinet sur toutes les lèvres, ne serait-ce que côté candidat, enfin. Tu vois, le nombre de jeunes avocats qui disaient ah, « je voudrais aller dans un cabinet comme Bold », c'était assez impressionnant. Face à, on va dire, un tel succès entrepreneurial, enfin en tout cas, enfin tu vois, on connaît jamais les choses de l'intérieur, mais en tout cas de l'extérieur, côté marque employeur, côté même, j'ai l'impression, réputation client, sur une certaine cible de clientèle et tout. Toi, comme associé, tu décides quand même de partir. Qu'est-ce qui t'a donné ces envies?
Je dirais que Bold est un modèle extrêmement exigeant. On était beaucoup d'associés et bon, il fallait que l'entente soit importante. Il y avait une vision que moi je portais en tant que CEO. Au-delà de ma casquette d'avocat, j'étais présidente de Bold, je portais une vision et il était important que tout le monde me suive dans cette vision et notamment mes associés. Bon, il est de notoriété publique que c'était pas toujours simple et voilà, parce que je pensais que ma vision n'était pas porté suffisamment fort, j'ai décidé ce que devrait faire tout bon CEO dans une boîte. Tu portes une vision, si tes associés ne te suivent pas, il t'appartient de laisser la place à des gens qui ont une vision qui est suivie par l'ensemble du groupe. Donc j'ai pris mes responsabilités, ça n'a pas été simple, c'était mon bébé, un peu Bold hein, quand même. Je l'ai cofondé avec mon associé à l'époque fondateur Serge Vatine. Et voilà, j'ai considéré que j'étais arrivée au bout du chemin que je pouvais proposer, que les propositions que je faisais étaient peut-être inappropriées ou pas à ce moment-là appropriées. Je pensais profondément qu'il fallait prendre ces décisions pour pouvoir avancer. Et voilà, j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé de quitter la présidence de Bold.
Et est-ce que t'as mis du temps à avoir la nouvelle idée pour Ether, tu vois? Comment s'est fait la transition? Parce qu'après, tu vois, tu parles d'une expérience entrepreneuriale assez exigeante, d'apporter une vision, un truc de rupture, tu vois, aussi, en termes de modèle, en termes de tout, j'ai envie de dire. Est-ce que t'as eu besoin d'un temps pour souffler? Est-ce que t'as rapidement eu, on va dire, l'idée de la suite? Est-ce que, enfin, voilà, comment est-ce que ça s'est fait un peu, cette transition entre deux projets?
Alors déjà, je savais dès l'origine de ma décision que une de mes collaboratrices, mais avant tout amie, puisque ça faisait 25 ans qu'on se connaissait et qui travaillait chez Bold depuis la création de Bold, viendrait avec moi. C'était une décision qu'elle avait prise, elle, dès l'origine. On est toutes les deux fiscalistes. Et donc, si tu veux, on savait déjà qu'on s'associerait ensemble sur un projet suivant. Donc ça a été quelque chose qui était acquis avant même mon départ. Ensuite, si tu veux, j'ai pas du tout pris de temps. Mais bon, après, c'est pas tout à fait dans ma nature. Donc, j'aimerais bien, de temps en temps, prendre un peu de temps. Voilà. Donc, j'accélère toujours un peu le temps. J'ai tout de suite su que j'allais recréer une marque forte, positionnée sur son marché. Donc, je le savais. Et je savais plusieurs choses. Je savais que ce serait sur la fiscalité, parce qu'on est toutes les deux fiscalistes. Je savais que je voulais restreindre le spectre de mon activité. Et je savais que je voulais faire une marque qui soit vraiment sur de la haute valeur ajoutée. Bold était un peu mal considéré par moment, et ça me dérangeait aussi parce que c'est beaucoup plus dur de faire monter une marque en valeur que de la faire descendre d'un certain point de vue. Donc, voilà, mon objectif, c'est vraiment de créer une marque qui déjà se positionne sur son marché avec moyen de redescendre, mais pas une obligation de ramer un peu pour démontrer qu'elle n'est pas, entre guillemets, low cost, ce qui a un peu au début, en tout cas, pu être le reproche qu'on faisait à Bold. Donc, j'avais pris cette décision qui était tout simplement le fruit de mes expériences passées. Et puis, autre chose, en tant que fiscaliste, je savais aussi que je ne voulais plus faire du B2C, donc parler aux personnes privées. En tant que fiscaliste patrimonial, en plus, puisque moi, mon métier d'origine, c'est le patrimoine. De facto, je m'adressais aux personnes privées, quand bien même ce sont des entrepreneurs, c'est leur argent personnel, c'est leur problème personnel, et c'est pas du tout traité de la même façon que les problèmes de l'entreprise. Donc je savais que je voulais faire du B2B, que je voulais continuer à parler aux entreprises. Donc c'est parti comme ça. Mon associée, elle, ne faisait que de la recherche des leviers fiscaux et de la recherche et l'innovation. Donc je savais qu'on partirait sur ces sujets-là, que je maîtrisais aussi, et sur lesquels on serait confortable ensemble pour produire quelque chose à valeur ajoutée. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé, si je puis dire, à remettre les mains dans le cambouis, puisque avec Bold, pendant 5 ans, de fait, je n'étais plus vraiment dans l'opérationnel. J'avais une équipe qui était importante et moi, je dirigeais l'entreprise. Donc, j'ai commencé un peu à me réintéresser concrètement à ce qui se faisait dans cette matière-là. Et il se trouve que, à ce moment de l'histoire, il y a une transition qui se passe, c'est-à-dire que ces leviers fiscaux, la recherche et l'innovation, il faut savoir que c'est quelque chose, comme j'expliquais tout à l'heure, tous les pays du monde font du dumping fiscal et essayent de faire en sorte que certains contribuables soient favorisés par rapport à d'autres. Et la France a toujours choisi la recherche et l'innovation comme sujet de dumping fiscal. Donc déjà, si tu veux, c'était assez intéressant de voir que c'était des leviers qui existent depuis 1983, à 80% utilisés par les grands groupes. Donc des choses qui sont assez pérennes et qui sont nécessaires pour booster la performance des entreprises en France. Donc déjà, sur le plan économique et même en termes de lobbying, il y a un intérêt au sujet. Et puis ensuite, je me suis rendu compte qu'à 98%, ces leviers étaient utilisés pour les sciences dures. Donc pour des gens qui font de la tech, de la pharma, de la métallurgie, des choses comme ça. Et en parlant avec mon associé et en comprenant comment ça fonctionnait de façon plus précise, c'est des clients qu'on avait déjà, parce que on est parti avec rien, mais elle avait cette petite clientèle personnelle et on a quand même un réseau et des gens qui ont voulu poursuivre avec nous. J'ai compris que les entreprises pouvaient utiliser ces leviers fiscaux pour des sujets liés aux sciences humaines et sociales. Et là, en fait, j'ai réalisé donc, en tant qu'entrepreneur, que ça s'adressait aussi à moi. Et c'est là que le shift a commencé à se faire dans mon esprit, où je me suis dit, mais si ça s'adresse à moi, ça s'adresse à tout le monde. En tant qu'avocat. Moi-même, je peux faire du CIR. C'est quelque chose que j'avais jamais identifié avant. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai déroulé le problème, sur le plan bien entendu juridique et fiscal, mais également sur le plan entrepreneurial. Et j'ai compris qu'en fait, il y avait là un nouvel espace de croissance qui était totalement sous-exploité. Il faut savoir que ces leviers fiscaux ne sont pas du tout exploités par les avocats. Aujourd'hui, il y a quoi, peut-être 2 cabinets d'avocats ou 3 cabinets d'avocats qui font ça sérieusement. La plupart des gens qui font les leviers fiscaux, les recherches et innovations, sont des cabinets de conseil qui sont pas avocats. Donc, ça m'a indiqué qu'il y avait un chemin de croissance potentiel. Et donc, j'ai commencé à creuser ça, mais ça a été extrêmement rapide, puisque dès septembre, on était reparti. En fait, si tu veux, la seule chose qui m'a freinée, c'est qu'elle a terminé son préavis en juillet, alors que moi, j'étais partie en mai.
Quelle est votre offre en ce moment chez Ether? Tu vois, comment est-ce que tu as reconceptualisé les choses, du coup, partant de là, partant de ce constat qu'il y a ce mécanisme fiscal d'avantages fiscaux liés à la recherche et innovation, constatant que tu as plein de clients qui sont des entreprises qui, en fait, n'utilisent pas par méconnaissance de leur existence ou que ça peut s'appliquer à eux, ces mécanismes, comment est-ce que vous avez pensé les choses, structuré les choses? Voilà, toute la partie un peu offre, tu vois.
Alors déjà, c'était pas facile parce que on a appris avec la croissance de l'entreprise et des clients. Au départ, on part vraiment de notre métier qui est la conformité fiscale. Il faut pas oublier que nous, les avocats, notre métier, c'est la conformité. Et c'est très important de comprendre que la conformité, c'est pas le domaine où il y a le plus de créativité. Mais c'est extrêmement important pour nos entreprises. Donc on est parti de ça, et en étudiant la conformité fiscale, on comprend que ça crée une colonne vertébrale très forte. C'est-à-dire qu'en fait, on prend une pratique d'exploration dans une entreprise. Je suis une entreprise, je veux être entreprise libérée et faire la semaine de 4 heures. Je suis obligée d'explorer des champs en sciences de gestion. Pour explorer ces champs en sciences de gestion, je suis bien obligée de lire de la littérature académique. Et de ça, je fais des expérimentations dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle techniquement de la recherche. Ce qu'ignorent la plupart de nos clients. Quand je comprends tout ça, je me dis, on a un petit problème quand même. Contrairement à Bold, où on était ce qu'on pourrait dire en inbound, c'est-à-dire que les clients, les prospects venaient à nous, on avait des dizaines d'appels de gens qui voulaient prendre notre service, et évidemment, il fallait transformer, mais on avait quand même des demandes spontanées. Là, il est évident que j'allais pas aller faire de l'AdWords sur Google, tu vois, pour aller chercher des clients, ou attendre qu'on vienne me voir pour me demander de faire de la recherche en innovation sociale, parce que j'aurais pu attendre longtemps. Donc, il a fallu aller taper aux portes des gens pour leur dire, mais savez-vous que ça existe? Et ça a donc été une démarche marketing, si je puis dire, puisque c'est ça ce que tu me demandes, qui a été complètement différente. C'était pas du tout la même façon d'aller chercher nos clients. Donc là, il a fallu un peu se creuser la tête. D'abord, évidemment, on a commencé par se demander si on pouvait pas faire du mailing, puisque c'est autorisé, n'est-ce pas ? J'ai pas besoin de vous le dire. En tant qu'ancienne élue de la profession, je pourrais vous l'expliquer si besoin. Mais c'est autorisé par l'article 10 du règlement international. Donc, on a commencé à identifier la possibilité de faire des mailings pour informer les clients. Et c'est vrai que là, on a eu des premiers déjà contacts. Et on s'est rendu compte que en commençant à travailler avec nos clients, qu'en fait, la partie crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire la partie financement, c'était presque accessoire pour eux. C'est-à-dire le simple fait déjà de structurer et de piloter une cellule de recherche en innovation sociale était déjà déterminant et pouvait déjà même en soi être un service, qui n'est pas a priori un service juridique. Et là, ça a commencé à nous faire évoluer beaucoup. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, je transforme complètement mon activité puisque je la split et que le cabinet avocat se sépare du cabinet de stratégie en innovation. Et ça, c'est un an après. Donc, on commence à comprendre qu'en fait, on peut apporter d'autres choses qui sont bien plus profondes parce que finalement, quand on en utilisant la compliance fiscale, on crée une structure à l'intérieur de l'entreprise. Par exemple, vous prenez le cas d'une entreprise à mission qui écrit dans ses statuts que sa mission, c'est par exemple la durabilité et l'économie circulaire, j'en sais rien. Une fois qu'elle l'a déclaré, finalement, c'est juste des mots qui sont posés dans les statuts. Et en créant une cellule de recherche en innovation sociale dans l'entreprise, on fait vivre cette mission en permanence. C'est-à-dire que on démontre qu'on continue à innover tous les jours sur cette mission. Et donc, on travaille sur la marque employeur, on travaille sur l'ensemble des parties prenantes, les fournisseurs, les clients, etc. Donc, l'impact pour l'entreprise est beaucoup plus fort qu'on imagine. Et en plus, nous, on leur dit, tout ça, tout ce risque que vous prenez, en plus, nous, on va vous trouver des financements publics. Donc, si tu veux, c'est devenu quelque chose qui était beaucoup plus puissant. Fort de ça, on a commencé à se dire qu'il fallait se positionner sur des salons. Et donc, on a pris la décision complètement dingue d'aller faire Vivatech. Parce que quitte à faire un salon, autant faire le plus gros directement. Donc, on s'est positionné sur Vivatech et on a pris un stand. Et là, on s'est dit, mais il va falloir qu'on ait quelque chose à donner aux gens. Parce que faire un salon comme ça, si on n'en garde rien et qu'on a juste dépensé l'argent du stand parce que c'est juste hors de prix, il faut absolument qu'on trouve une idée. Et l'idée qu'on a eue, c'est de faire un petit magazine, une petite revue, où on interviewait nos clients et des gens en fait qui travaillaient sur l'innovation sociale, qui n'étaient pas forcément des clients, mais qui potentiellement pouvaient le devenir aussi grâce à ces interviews. Ça a été le cas. Donc, on a décidé de faire un magazine. Bon, c'est un peu une folie dingue, hein, parce qu'on a fait ça en 7 semaines chrono, 96 pages. C'est bête que je ne l'ai pas emmené, je l'aurais donné à tous, parce que j'en ai plein au bureau. Mais si vous le voulez, vous aurez qu'à m'envoyer un message sur LinkedIn et je vous l'enverrai. On a fait une revue de 96 pages avec une dizaine d'interviews, avec des articles de fond. Parce que en parallèle de ce travail, j'ai rencontré des chercheurs en sciences humaines et sociales qui sont entrés dans notre comité scientifique, puisqu'on a eu besoin d'eux, pour aider nos clients à travailler sur l'éligibilité des projets. Et donc, on a Elsa Godard, qui est docteur en philosophie et psychologie et habilitée à diriger des recherches. On a Quentin Génicel, qui est un doctorant en sciences de gestion et qui est une personne extrêmement brillante et avec qui on travaille énormément sur les dossiers de nos clients. Et on a aujourd'hui Lise, qui rejoint aussi notre comité scientifique. Donc, on a un comité scientifique interne. Et donc, ils ont aussi, eux, écrit sur l'intérêt de créer ce type de cellule de recherche à l'intérieur des entreprises. Et en fait, cet outil de communication a été déterminant, d'abord parce que ça pèse quand même, et on l'a distribué à Vivatech largement, on l'a même donné au président de la République, c'est quand même passé au petit journal, hein, pardon. Je dois dire que je suis pas peu fière, je lui ai donné moi-même, il m'a demandé si c'était un cadeau, je lui ai dit oui monsieur le président, c'est un cadeau. Je sais pas s'il l'a lu, en tout cas, il l'a eu entre les mains, et il l'a regardé, et c'est passé au petit journal, voilà. Avec le logo Ether. Donc voilà. Donc on l'a donné à toutes les personnalités politiques, évidemment, qui étaient présentes sur Vivatech, mais évidemment, à toutes les entreprises qui sont passées sur notre stand. Donc ça a été un outil de communication assez fort aussi. Donc on s'est tout de suite positionné, comme je vous le disais au départ, on voulait se positionner en tant que marque, à un niveau d'excellence, et le magazine et le salon ont été tout de suite déterminants pour avancer dans cette voie.
Du coup, c'est une transition parfaite avec, tu vois, pour clôturer cet échange, ou en tout cas, avant d'ouvrir peut-être les questions aux personnes qui seraient là et qui voudraient poser des questions, comment est-ce que tu penses ta stratégie de marque? Tu vois, si on prend un peu, non pas en partant de Ether, mais en partant de, OK, j'ai un projet et je veux construire une marque autour de ce projet, comment est-ce que tu descends un petit peu ta réflexion pour en arriver à ce qui va devenir justement ta marque derrière?
Je pense que la clé, en créant Ether, je suis repartie à zéro. Donc, ça m'a vraiment permis de réfléchir les choses. Et il n'était pas question que je fasse un bold bis. Bold a son identité propre. Et je pense que tout est là. En fait, ce qu'il faut, c'est penser l'entreprise comme un être vivant, comme un organisme vivant. À partir du moment où tu penses l'entreprise comme un enfant, qui potentiellement, d'ailleurs, finira par faire sa vie tout seul, tu ne l'élèves pas de la même façon que si tu le penses comme quelque chose qui t'appartient ad vitam aeternam. Ce que nous, on fait chez les avocats, parce que c'est notre cabinet, et qu'on le crée comme ça. Moi, c'est pas comme ça que je pense les choses. Pour moi, c'est un organisme vivant qui doit avoir sa propre capacité à respirer. Alors évidemment, Ether est encore tout petit, donc il marche à peine, donc il a un an, donc forcément, c'est encore un tout petit organisme vivant. Mais si tu le penses comme ça, il a sa propre âme, d'un certain point de vue, il a sa propre identité, il a sa propre voix aussi. Je travaille depuis toujours avec ma sœur sur la communication et c'était un vrai enjeu quand on a travaillé chez Bold et ensuite chez Ether, c'était de dire il faut qu'on trouve une autre voix, une autre façon de s'exprimer. On ne parle pas du tout à la même clientèle, on ne parle pas du tout de la même façon, on n'est pas la même personne. Et donc, on a été obligé de trouver aussi une autre voie de communication, une autre voix avec un X, pas avec un E. Mais ceci dit, les deux pourraient marcher. Donc, je le pense vraiment comme un organisme vivant et je le pense comme un organisme vivant qui doit à terme se passer de moi. C'est ma priorité dans ma façon de réfléchir. Donc, je le construis comme ça. Donc, l'identité, elle doit porter par elle-même. Elle doit avoir sa propre force, sa propre capacité à générer de l'écho. Et donc, j'essaye d'avoir pour elle, dans un premier temps, comme on pourrait l'avoir pour un enfant, une vision. Une façon de se projeter dans l'avenir, de dire bah voilà qu'est-ce que je veux faire de ma vie en tant que organisme vivant, et puis ensuite faire en sorte que tous les gens qui travaillent avec nous, moi j'ai aujourd'hui chez Ether, j'ai une associée, on a une collaboratrice avocate fiscaliste, une assistante, et ensuite on travaille essentiellement avec des gens qui sont en freelance, dont ma sœur, mais pas seulement, on a une personne qui fait notre système d'information. Et on reste une team, c'est-à-dire que tout le monde doit avoir le même niveau d'engagement, non pas pour moi, mais pour faire en sorte que ce projet soit autonome à terme. Donc voilà, on est tous dans un travail de nurturing, si je puis dire, autour des terres, pour qu'il grandisse progressivement et qu'il ait sa propre voix, sa propre identité, sa propre capacité finalement à transformer son industrie. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que mon objectif, c'est pas de produire du droit ou de produire de la stratégie juridique. Mon objectif, c'est de rendre service à mes clients. Et ça, c'est aussi une grande transformation. C'est-à-dire que je crée un organisme vivant dont la vocation est de rendre un service précis aux clients, qui est game changer pour les clients. Voilà. C'est ça qui est important. C'était déjà le cas chez Bold. Et c'est encore aujourd'hui le cas chez Ether. Il faut que ce soit game changer. Il faut que les gens se disent, je vais travailler avec eux parce que finalement, je serai plus la même entreprise avant, après qu'avant. Et chez Bold, on avait aussi ce postulat. On se disait, il faut que les gens se disent, si je suis une start-up sans Bold, ce sera pas pareil que si je suis une start-up avec Bold. Et là, c'est pareil pour les entreprises dans un spectre beaucoup plus large que Bold. Si je prends Ether, ce sera pas pareil après qu'avant.
Donc l'élément déclencheur aujourd'hui du fait de solliciter Ether, c'est de se dire je veux mettre en place de la recherche dans mon entreprise. Comment je fais? C'est-à-dire avec qui je travaille?
C'est pas tout à fait ça, parce que aucun de nos clients actuels ne savait qu'il faisait de la recherche. Tu vois, c'est ce que je te dis. C'est pour ça qu'on n'allait pas faire de AdWords. Personne va taper sur Google je veux faire de la recherche. Comment je fais? Tu vois, ce serait bien, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est bien plus compliqué que ça. C'est en fait vous en faites déjà. Toutes vos intuitions d'entrepreneur sont potentiellement des opérations de recherche. Mais en les confinant au simple fait d'être des intuitions entrepreneuriales, où vous êtes obligé de faire du test and learn, ce que tu as dit tout à l'heure, le test and learn, c'est de la recherche. En réalité, chez Bold, potentiellement, j'en faisais déjà, tu vois. Mais le test and learn, c'est déjà de la recherche. en sciences humaines et sociales. Donc, le simple fait de le faire, c'est déjà en soi une opération de recherche potentielle. Après, à nous d'en faire une vraie opération de recherche. Et quand on en fait une vraie opération de recherche, on lui donne quoi ? On lui donne une crédibilité. C'est plus une lubie d'un entrepreneur ou d'un directeur de business unit ou je ne sais quoi. Ça devient quelque chose sur lequel on travaille de façon scientifique. Ça devient crédible, ça devient légitime et donc communicable. Et ça, c'est important.
Oui, on en revient quand même à aider les entreprises à faire du business derrière.
Pour rajouter là-dessus, on a nous-mêmes un laboratoire de recherche interne chez Ether. On demande nous-mêmes du crédit d'impôt recherche. Et d'ailleurs, à cet égard, je me suis réinscrite depuis le 23 octobre en doctorat pour devenir docteur en sciences de gestion.
C'est quoi ton sujet de recherche, du coup ?
Trop facile, c'est le sujet de mon entreprise, l'impact de l'innovation sociale en entreprise. Le titre changera peut-être parce que c'est le titre que j'ai choisi pour m'inscrire, qui m'a permis de faire mon projet de recherche. Mais bien sûr, la thèse, elle sera terminée en 3 ans, donc le titre évoluera peut-être d'ici là.
Ok, est-ce qu'il y a des questions ou des observations, ou je sais pas ?
Merci, bonjour et merci pour le témoignage. Moi, ma question, c'était, donc de ce que je comprends, je suis désolée, je connais pas forcément votre structure, je suis un petit peu amateur et novice en la matière. Ma question, c'est comment vous faites pour organiser votre temps entre le développement du cabinet et du coup le traitement des dossiers, concrètement. Parce que on sait, moi, je suis jeune avocate et j'ai pas beaucoup de dossiers perso, mais le peu de dossiers perso que j'ai, ça me prend énormément de temps, voire peut-être plus que ce que je passe sur certains dossiers du cabinet, parce que je sais que je vais être relue. Donc, comment on fait pour créer sa structure, trouver le temps pour donner des prestations qualitatives aux clients et en même temps développer sa visibilité, sa marque et sa communication? Je pense notamment au magazine de 96 pages qui est impressionnant à monter en 7 semaines avec 10 interviews. Donc, je me demande et je suis intéressée de savoir comment vous avez fait pour vous organiser par rapport à ça.
Il y a plusieurs façons de procéder. Déjà, mon expérience bold, mais que j'ai reproduit de façon un peu plus précise chez Ether, puisque quand on a déjà fait une première fois, c'est plus facile de refaire mieux une deuxième fois. On est très processé dans notre entreprise, vraiment. Et on utilise vraiment beaucoup d'outils. On travaille avec Notion, on travaille avec Pipedrive pour tous les prospects, donc Notion pour toute l'organisation du cabinet. On a des outils et on conserve énormément de choses. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter de faire et refaire ce qu'on a déjà fait. Tout est très organisé. On organise en faisant. C'est-à-dire que quand on travaille sur un dossier, un premier dossier, on décrit comme un millefeuille toutes les étapes par lesquelles on passe pour la fois d'après gagner du temps. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre ADN. Et c'était déjà le cas chez Bold. On n'avait pas le choix chez Bold pour pouvoir gagner en productivité. Chez Ether, on avait un peu plus le choix, mais on l'a inscrit dès l'origine dans la méthodologie de travail, ce qu'on impose aussi finalement à nous-mêmes et à toute l'équipe. Donc déjà, on est très méthodologique, on est très processé pour gagner du temps. Et ensuite, on s'impose, et ce que j'impose, alors aujourd'hui j'ai investi dans un autre cabinet d'avocats dans lequel je suis juste investisseur et que je soutiens aussi dans son organisation, j'ai imposé dans ce cabinet d'avocats ce qu'on avait fait chez Bold et ce que je fais chez Ether, c'est qu'une fois par semaine, on a une réunion d'équipe hebdomadaire sur lequel on travaille sur les sujets de construction du projet. On n'est plus dans le run, on est dans le build. On est vraiment dans qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va vers la vision qu'on s'est posée. Donc, c'est une décision aussi. Où je suis à 5 ans et comment chaque semaine je vérifie que j'ai fait un pas de plus. Il faut comprendre qu'une année, elle passe vite. La seule chose qui importe, c'est de se retourner à la fin de l'année, d'avoir fait 365 pas vers l'objectif qu'on s'est fixé. Et puis si on en a oublié une centaine, on en a fait quand même 265. C'est déjà pas mal que rien du tout. Donc ça, c'est vraiment très important pour moi. C'est-à-dire qu'on a vraiment une organisation interne, presque comme un COMEX dans des grosses boîtes. Même si j'ai jamais été dans une grosse boîte, je pense que c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que j'ai entendu ce matin d'un de nos clients, nous, tous les ans, quand on fait nos budgets, parce qu'en ce moment, on est en période de budget, moi-même, je fais mes budgets tous les ans, on décide ce qu'on va faire dans 5 ans, tous les ans. Tous les ans. Donc, c'est exactement ce que je fais, moi, à ma façon, de façon empirique, parce que moi, je l'ai pas appris et j'ai pas été dans une grosse boîte, mais chaque semaine, on fait le point sur... Et puis, voilà, si ça n'a pas avancé, alors ça peut être avec soi-même. Pour être très honnête avec vous, Moi, j'ai jamais été avec moi-même. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé la profession et que je me suis installée en 2004, du fait de m'être fait virer deux fois pour cause de grossesse, donc j'ai dû m'installer en 2004, j'ai immédiatement créé une sorte de mini conseil d'administration. Comme ça, spontanément, je l'ai pas fait avec à l'époque le recul que j'ai aujourd'hui. J'avais pris une coach et je la voyais tous les mois parce que j'avais pas vraiment, des fois moins selon les moyens que j'avais. Et en tout cas, ça me faisait une sorte de conseil d'administration avec moi-même, c'est-à-dire que je vérifiais que j'avais avancé vers ce vers quoi je voulais aller. Donc c'était déjà un petit peu dans ma façon d'être. Je suis pas une grande solitaire. J'aime bien travailler aussi en collectivité et l'échange nous permet quand même de gagner beaucoup. Donc j'ai créé cette possibilité de chaque semaine de vérifier qu'on a avancé vers l'objectif. Et puis voilà, je fais des budgets et dans ces budgets, je décide qu'il y a une partie qui va être affectée au marketing. Et si c'est affecté au marketing, il faut qu'on le fasse. Et donc ça veut dire que si on le dépense, il faut le dépenser bien. Il faut avoir un maximum de retour sur investissement. Donc voilà, je réfléchis vraiment de façon entrepreneuriale. Et c'est pas quelque chose sur lequel je me laisse le choix.
Une autre question.
Ma question, c'est comment on fait pour passer peut-être d'un cabinet où au début, on est 2, 3, 4 associés avec peut-être des spécialités de niche à quelque chose d'aussi 360 un peu qu'a pu l'être Bold.
Alors ça a été une grande difficulté qui peut-être même a abîmé nos relations. Donc c'est pas forcément simple de l'expliquer. Bold a été une expérience incroyable, mais elle a été humainement compliquée aussi parce que quand on fait une telle disruption sur une industrie, c'est pas facile pour tout le monde. C'est quelque chose qui me paraissait évident. Le seul moyen d'y arriver, c'était d'uniformiser le service sur tous nos domaines de compétences. Donc il fallait impérativement que les associés lâchent leur domaine de compétences. Bien entendu, ils devaient être en back-office pour s'assurer de la qualité, mais pas en front et surtout pas en goulot d'étranglement vis-à-vis des collaborateurs. Donc, la façon dont on a procédé chez Bold, c'est qu'à un moment donné, on a créé des équipes autonomes qui étaient en capacité de gérer leurs dossiers de façon autonome et l'associé ne devait être qu'en back-office, c'est-à-dire que c'était les collaborateurs qui géraient l'intégralité des demandes des clients. Et si le collaborateur se sentait en limite de compétences, il était dans sa responsabilité de demander à l'associé de l'aide. Donc on a complètement inversé le système des cabinets d'avocats classiques. Et les associés sont montés sur d'autres niveaux de compétences, que ce soit en marketing justement, que ce soit en vente, que ce soit en RH, etc., etc. Tout en conservant quand même leur expertise. Aujourd'hui, chez Ether, par exemple, moi, je ne suis quasiment pas dans les dossiers. Alors, je reprends un peu sur la partie scientifique, puisqu'en devenant doctorante, j'ai intérêt à reprendre sur la partie scientifique pour gagner en compétences. Mais sur la partie fiscale, que je maîtrise parfaitement, je suis quasiment pas. Par contre, mon associé et ma collaboratrice et notre collaboratrice savent toutes les deux, parce que je suis la plus expérimentée en contrôle fiscaux, par exemple, que si elles sont en limite de compétences ou si elles ont pas d'idées ou elles savent pas comment faire, qu'elles peuvent à tout moment me solliciter. Ça permet plusieurs choses. Ça permet d'abord de les faire monter, elles, au niveau de compétences, ce qui était ce qu'on voulait chez Bold. Pour quand on a 100 collaborateurs, on a plutôt intérêt à ce qu'ils montent en niveau de compétences, parce que je peux vous assurer que si on s'amuse à se faire un goulot d'étranglement, on étouffe et on crève. Donc, c'est juste pas possible de revérifier le travail de tout le monde. Donc, c'était impératif de le faire. C'est toujours le cas chez Ether. Et puis, ça permet surtout de se libérer de la charge mentale. Parce que la problématique, c'est que si on veut libérer du temps pour développer, on ne peut pas avoir la charge mentale des dates, des obligations, des choses comme ça. Il faut impérativement que quelqu'un d'autre ait de la charge mentale. Et je parle pas de la capacité à faire, je parle bien de la charge mentale. Qui est responsable du dossier? Et ça, c'est fondamental. Cette notion de charge mentale, pas besoin de vous dire, les quatre gosses, les machins, les bidules, cette notion de charge mentale, c'est fondamental dans une entreprise. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on sait si on a engagé la bonne personne ou pas. Chaque personne qui va vous débarrasser de la charge mentale est une bonne personne. C'est pas sa compétence technique, si je peux me permettre ce petit conseil au passage.
Écoutez, je pense qu'il est 20h15, 17, c'est bien, j'ai à peu près tenu le timing. Donc, je vous propose de passer à la phase fête de la rencontre. Merci beaucoup, Clarisse, pour cet échange. Et puis, il y en a d'entre vous qui sont arrivés depuis, donc bonsoir à tous ceux que je n'ai pas vus encore. Bienvenue, vous arrivez au moment où tous les petits fours et tout ont été mis en place, donc c'est parfait. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un truc de photo là, donc amusez-vous bien. Et puis voilà, on se reparle dans la soirée.
Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine !